Fidèle au poste chaque saison depuis l'automne 2013, Olivier Beauregard est de retour encore une fois cette année pour faire le tour de ce qui se passe dans le monde du sport. Olivier Beauregard, bonjour!
Salut! Bon lancement de saison à tous!
Ben oui, c'est pas mal le fun de te retrouver cette saison. Et là, on n'ira pas à ce qui s'est passé nécessairement dans la dernière semaine. Tu as décidé, pour amorcer la saison, de jeter un coup d'œil à l'été qui se termine, puis de nous faire ton top 3 des nouvelles sportives qui ont marqué la saison estivale.
Écoute, j'espérais quasiment qu'on puisse se parler à toutes les semaines cet été, parce qu'il y a tellement eu de nouvelles. Il y a tellement eu de choses qui ont bougé dans le monde du sport que je me disais, il y a de la matière, maudit qu'il y a de la matière. Donc, ça prouve que le monde du sport ne dort jamais. Et ouais, j'ai décidé de faire un genre de petit top 3 des nouvelles qui m'ont le plus marqué. Puis, je peux pas, Sébastien, passer à côté de cette nouvelle-là parce qu'au fil des années, je vous ai tellement parlé souvent de l'impact que soit maintenant le CF Montréal et et sa façon de gérer, sa gestion. Tu sais, j'ai rarement parlé de l'équipe sur le terrain, j'ai plus parlé de l'équipe dans les bureaux administratifs. Et cet été, honnêtement, ça a été une bombe au Québec quand le CF Montréal a décidé de publier là une lettre ouvert sur les réseaux sociaux, signé par Gabriel Gervais, Lucas Saputo et Simone Saputo, en disant qu'il faisait un meilleur culpa, que l'équipe était en train de prendre les bas-fonds dans plusieurs aspects de l'organigramme de l'organisation et qu'ils allaient passer par une étape de la reconstruction. Écoute, ce mot-là là, est galvaudé au Québec parce que le Canadien en fait un saut à la télé présentement de la reconstruction.
Oui.
On dirait qu'on passe par là puis que ça, c'est comme... un passage où on va chercher la sympathie de nos partisans. Mais du côté du CF Montréal, c'est parce que là, on était rendu à un point de non-retour. Tu sais, il y a eu, rappelle-toi, Sébastien, puis pas mal certain que ça va te sonner une cloche, mais quand on a décidé de changer un peu l'image de marque de l'équipe il y a quelques temps, de passer de l'Impact de Montréal au CF Montréal, rappelle-toi comment ça avait été dur à faire avaler aux partisans. Hein? On n'était pas certain de la logique derrière ça. On n'était pas nécessairement d'accord non plus parce que l'Impact faisait partie, si tu veux, du fait que l'équipe avait obtenu une place en MLS, qu'on avait donné, si tu veux, des lettres de noblesse au soccer à Montréal. Et là, ben, on avait changé ce nom-là. Ça n'avait pas passé, puis ça a pris du temps avant justement que la pilule passe là, pour les partisans. Après ça, ben, il y a eu également la gestion des joueurs. On allait chercher des joueurs, on les perdait. Il y avait des déclarations incendiaires dans les médias aussi à propos des joueurs qui disaient jouer à Montréal. C'est un couteau à double tranchant parce que les partisans sont passionnés, mais la direction, c'est pas comment gérer des joueurs vedettes, mettons ça entre guillemets. Tu sais, il y a eu Didier Drogba, mais après ça, on a eu de la difficulté à garder des gens à Montréal pour un bon bout de temps. Et évidemment, il y a eu toutes les frasques avec le personnel d'entraîneur. Il y a tellement eu de jeux de chaises musicales au fil des ans. On dirait que c'était toujours la faute de l'entraîneur-chef pour les frasques sur le terrain. Bref, on a décidé de faire une lettre. On a décidé de s'excuser et de faire accepter à nos partisans que l'équipe allait passer par une période de reconstruction. Écoute, c'est à voir maintenant parce qu'on sait que c'est enclenché. Ça s'est passé au mois de juillet et là, on sait que c'est enclenché, cette fameuse période-là. On a décidé de déconstruire avant de reconstruire du côté de Lucas Saputo. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs désignés qu'on est allé chercher, d'autres qu'on a laissé partir. Mais ça veut dire une chose, là, c'est que la pression, Sébastien, était rendue tellement forte pour la famille Saputo.
Il n'y avait pas le choix, là. Il n'y avait pas le choix de faire quelque chose là, ou de dire quelque chose.
C'est que ça frôlait le ridicule. T'sais, à chaque année, il y avait une nouvelle d'envergure où l'équipe se faisait rincer totalement, là, pardonnez-moi l'expression, mais ça reste ça, où l'équipe avait de l'air complètement désorganisée. Donc, cette année, début de saison catastrophique, 3 victoires, 15 défaites, on se disait ça s'en va nulle part encore une fois cette saison-là, et c'est comme si c'était pas plus grave que ça, parce qu'à Montréal, on veut pas dépenser des sous pour des joueurs qui ont un impact réel. Alors, bref, on a décidé de s'excuser auprès de nos partisans et je pense que c'était la chose à faire. Maintenant, c'est de voir est-ce que les partisans vont être prêts à accepter ce que c'est une étape de reconstruction. Je vais être honnête avec vous. Je sais pas combien de temps ça dure là, dans le soccer puis dans la MLS, là, une reconstruction. Mais si on se fie au reste des équipes sportives ou au reste plutôt des ligues sportives importantes, tu sais, c'est pas quelque chose qui dure un mois, puis après ça, on est reparti, là. Ça prend du temps. Alors, on verra, parce que je pense qu'on a vraiment étiré l'élastique au niveau de la patience des partisans du CF Montréal. J'ai hâte de voir. Je sais que ça fait un mois, cette nouvelle-là, et un peu plus qu'un mois, là. Ça s'est passé le 23 juillet, là, dans ces eaux-là. Mais ça reste que il y a quand même une étape qui est encore importante, puis c'est celle-là de vouloir rebâtir une organisation qui va fonctionner. Moi, je me suis posé des questions, puis je vous le dis, je pensais que Gabriel Gervais allait être éventuellement remercié, parce que lui, il va dans les médias, mm-hmm. Il défend l'organisation, mais c'est toujours un peu de façon, un peu maladroite, là, je vais dire ça comme ça pour être poli. Donc, j'ai hâte de voir, est-ce que le CF Montréal va être capable justement de reconstruire sur des bonnes bases, puis d'arrêter justement cette descente aux enfers-là. On verra, parce que, oui, le soccer a de l'ampleur au Québec, Sébastien, mais c'est pas le sport le plus couru, mm-hmm. on va dire ça comme ça. Et si tu veux garder tes partisans, tes fidèles, à un moment donné, il va falloir que tu arrêtes de les prendre un peu pour acquis. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, mais on risque d'avoir un automne important, puis surtout l'hiver prochain, là, où on va se diriger vers une nouvelle saison, où on va être en préparation. On va voir un peu ce que le CF va nous réserver pour la saison prochaine.
Bon, ça, c'est la troisième nouvelle de ton top 3. Deuxième nouvelle, on s'en va dans le monde du hockey, c'est l'acquisition de Noah Dobson chez le Canadien.
Écoute, le Canadien, là, ça fait quelques années, surtout depuis l'arrivée de Kent Hughes et Jeff Gorton, qu'on nous prépare toujours un très, très beau coup au niveau du repêchage. Rappelle-toi, 2022, premier choix total, tout le monde pense que Shane Wright va être sélectionné à Montréal, et finalement, c'est Juraj Slafkovský. Le Canadien a comme été le grand spectacle de cette première ronde-là à Montréal, chez lui. L'année suivante, on amène Céline Dion dans la sphère à Vegas pour sélectionner nul autre qu'Ivan Demidov. Puis là, tu sais, ça s'enchaîne, là. Et là, cette année, on a deux choix de première ronde du côté du tricolore, puis on décide de l'étranger pour de l'aide immédiate. Évidemment, quand tu as les choix 16 et 17 de première ronde, Sébastien, là, ces joueurs-là, les chances qu'ils commencent la saison et qu'il y ait un impact immédiat dans ta formation sont quand même minimes. Mm-hmm. Et le Canadien, oui, est en reconstruction, mais dans une étape plus avancée, disons, dans sa reconstruction. C'est-à-dire que là, l'an passé, on a créé des attentes avec cette fameuse participation-là en série. Et là, on le sent que Kent Hughes et Jeff Gorton se disent, ben, savez-vous quoi? La participation en série, c'est maintenant la base. C'est ça qu'on vise année après année. Mm-hmm. Et bientôt, on va mettre ça un peu plus haut encore. Est-ce que ça sera une finale de conférence? Puis finalement, atteindre la finale de la Coupe cette année, ce sera à suivre. Mais sûr et certain qu'avec l'acquisition de Noah Dobson, moi, je trouve que le Canadien vient de se mettre de la pression, et mais vient aussi, si tu veux, de s'imposer comme une équipe qui veut faire partie des séries éliminatoires. Tu sais, là, cette année, au tournoi de golf, là, je suis pas certain qu'on va entendre des gens dire nous autres, ce qui nous convient, c'est d'être dans le mix. Non, je pense que là, on a des ambitions un peu plus grandes. Mm-hmm. Puis de toute façon, Martin Saint-Louis, les joueurs vont tous le ressentir, ça, Sébastien, là, ça sera pas compliqué. On va tous le ressentir que maintenant, ce qui est important, c'est de performer. Et la pression, ça sera plus... Tu sais, c'est correct d'avoir essayé de faire acheter la reconstruction aux partisans, puis il y en a plusieurs qui l'ont fait, puis bravo, parce que c'est une première pour le Canadien. Mais là, ça peut pas durer encore plus longtemps. Je pense que là, maintenant, le Canadien doit se mettre à gagner sur une base un peu plus régulière. Et l'acquisition d'un grand défenseur droitier comme ça, qu'on lui accorde tout de suite après la transaction un contrat de 8 ans d'une valeur de 76 millions de dollars, là, on vient de dire... Ce gars-là est chez nous pour rester, puis ça va être un rôle prédominant au niveau de notre brigade défensive. Écoute, tu laisses partir les choix 16 et 17 du dernier rang-camp. Tu laisses partir Emil Heinemann, qui avait montré de belles choses, mais qui n'était pas nécessairement dans les cartons, là, sachant que le top 6 du Canadien est pas mal solidifié. Maintenant, je pense que ça a été une grosse nouvelle. Je pense que ça a été apprécié de tout le monde. Je trouve que le Canadien n'a pas payé très, très cher pour cette transaction-là. Oui, vous allez me dire deux choix de première ronde, mais c'est des choix tardifs. Et de toute façon, le Canadien, dans son processus à l'heure actuelle, ces choix-là, ça aurait dormi un peu dans la Ligue américaine, là. Donc, vraiment content de voir que le Canadien a décidé de bouger. Ça va être très intéressant. J'ai l'impression que la saison de hockey du Canadien va être rafraîchissante cette année. Je veux pas trop mouiller, mais je pense que ça va être rafraîchissant.
Maintenant, top 1, parlons tennis, parce que à l'Omnium Banque Nationale, ben là, tout le monde a fait la découverte de Victoria Mboko. Et toi, t'étais là.
Oui, monsieur.
Fait que là, oui, c'est oui, top 1, parce que c'est important cet été comme nouvelle sportive, mais t'as un parti pris parce que là, tu l'as vécu de près, là.
Écoute, c'est l'événement sportif de mon été. Oui, j'ai un parti pris, puis je t'en cacherai pas parce que, écoute, c'était complètement malade comme énergie, mais c'est surtout toute l'histoire, le build-up derrière ça. Peu de temps avant l'Omnium à Montréal, on parlait de probablement la nécessité d'avoir un nouveau stade pour garder ce titre-là de tournoi d'envergure au niveau du parcours du tennis, au niveau du circuit. Et on se disait, ça va prendre quelque chose pour que les gens gardent l'intérêt parce que c'est pas facile à Montréal de garder l'intérêt dans des infrastructures avec le stade IGA qui sont un peu... je vais dire désuet, là, mais pour l'instant, ça remplit le mandat, mais éventuellement, Sébastien, il va falloir se moderniser un peu à ce niveau-là. Bref, ça faisait partie des discussions en début d'Omnium, mais le meilleur scénario possible est arrivé, c'est-à-dire que tu as une Canadienne, Victoria Mboko, qui se rend jusqu'en finale à seulement 18 ans, un parcours phénoménal et qui va jouer contre nul autre que Naomi Osaka, qui fait partie de la crème de l'élite féminin au niveau du tennis dans l'ATP et là dans la WTA pardon et là tu t'affrontes et écoute, c'est une finale à Montréal, elle perd le premier set et par la suite elle revient dans le match avec des coups fantastiques, là, pas là un match qui est à sens unique, au contraire, là, ça a été un match fantastique avec des coups fantastiques d'une jeune fille de 18 ans qui a toute la pression du monde à jouer chez eux en finale pour la première fois contre une joueuse chevronnée comme Naomi Osaka. Honnêtement, là, Sébastien, c'est le moment de l'été. J'ai encore sur mon téléphone cellulaire la vidéo où elle gagne le fameux coup gagnant et qu'elle tombe à genoux au sol. Écoute, l'ambiance était phénoménale. Je pense qu'on vient de lancer un message également au circuit que, ben à Montréal, donnez-nous les infrastructures, ou aidez-nous à nous avancer vers des infrastructures qui sont, disons, plus modernes. Puis je pense qu'on peut avoir un tournoi excessivement relevé. Ça a été exceptionnel comme événement cet été. Puis, chapeau à la jeune Victoria Mboko, parce qu'honnêtement, moi, j'ai été surpris. Je la connaissais pas du tout avant l'Omnium je suis devenu un fan, mon ami. Littéralement, elle m'a fait vivre des émotions fortes et je pense que c'est le tennis qui en sort gagnant. Je pense que le tennis canadien avait besoin d'une vedette également, là, parce que dans ce tournoi-là, il y a eu Eugénie Bouchard qui a tiré sa révérence également, hein. Elle a joué ses derniers matchs. Elle voulait le faire chez elle à Montréal. Mais au niveau féminin, à moins que je me trompe, Sébastien, puis tu me corrigeras, mais c'est la dernière, Eugénie, c'était la dernière tête d'affiche. C'était la dernière célébrité sur laquelle nous autres, les Canadiens, les Québécois, on se rangeait, là, tu sais. Donc, j'ai été vraiment...
Oui, il y a Léla Fernandez, il y a Bianca Andreescu, mais c'est pas de l'ordre d'Eugénie Bouchard, là, au niveau de la popularité.
Rappelle-toi, Eugénie avait fait tout un parcours à Wimbledon. Je veux dire, c'était elle qui nous donnait les plus grands espoirs. Je vais dire ça comme ça. Mais là, Victoria Mboko, à seulement 18 ans, avoir fait ce qu'elle a fait, écoute, impossible que cette fille-là... En tout cas, le sky is the limit, comme on dit dans le jargon du sport, c'est à voir comment son développement va se poursuivre. Mais c'est une très, très belle histoire et c'est l'histoire de l'été dans le monde du sport, selon moi.
Voilà pour ton top 3. Rapidement, il nous reste peu de temps, mais tu as une mention spéciale à faire aussi quand même.
Ouais, écoute, c'est juste un clin d'œil, mais ça reste... Je te dirais que c'est l'événement le plus cocasse de l'été. C'est la déclaration du père de Lane Hutson dans les médias. Lane Hutson, vous savez, n'a pas été retenu pour les Jeux olympiques au niveau de l'équipe américaine. Et le père était en beau tabarouette. Il a fait une entrevue et dans l'entrevue, il a dit, vous savez, mes fils ont la double citoyenneté, c'est-à-dire la citoyenneté américaine et canadienne. Alors, il n'y a rien qui empêche un jour à mes garçons de participer au camp de développement de l'équipe canadienne en vue des Jeux olympiques. Honnêtement, là, ça a l'air bien minime, là, mais si moi, je suis Lane Hutson, un joueur du Canadien de Montréal, un gars qui est en train de faire ses dents, qui a gagné, oui, le trophée Calder, mais qui est en train de faire ses dents dans la Ligue nationale et que mon père agit comme s'il jouait Pee-wee A, honnêtement, je serais gêné. Et c'est vraiment le message que ça a lancé. C'est jamais bon quand papa et maman se mêlent trop de ça, non. Surtout dans un niveau professionnel. Là, à un moment donné, votre fils est assez grand. J'ai vraiment trouvé ça ordinaire et je vais te le dire, il s'est fait poivrer, M. Hutson. Là. Il s'est pas fait manquer par plusieurs médias en disant « Voyons donc, c'est quoi cette déclaration-là qui était complètement inutile? » Bref, ça a été fait, mais ça a été un événement qui, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler.
Olivier Beauregard, un grand merci, puis on se retrouve la semaine prochaine.
Hey, c'est un plaisir, c'est le fun. On se retrouve bientôt.
Salut.